Bonsoir à tous. Alors nous nous retrouvons ce soir pour un nouveau podcast autour de l'épître de Pierre. Pourquoi cette épître ? Tout simplement parce que je prends personnellement plaisir à méditer cette épître et je trouve qu'elle regorge de nombreuses informations à destination des chrétiens d'aujourd'hui, en articulant à la fois l'espérance du salut mais également la marche dans la sainteté à laquelle est appelé tous les chrétiens qui se disent être des élus de Dieu. Alors nous allons commencer, comme à l'accoutumée, par aborder ce livre progressivement et tirer également des exhortations pour nous aujourd'hui et en partant à la fois du texte. Commençons tout de suite alors en prenant une première exhortation, en analysant seulement le premier chapitre. Le premier chapitre revêt toutes les caractéristiques d'une lettre apostolique et on peut la diviser en trois parties avec ce que je vais vous montrer après, une sorte de schéma de l'évangile. Donc déjà, on peut distinguer la première partie du verset 1 au verset 5, qui est du coup une présentation de l'auteur et de ses destinataires. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ensuite, on a une partie un peu plus grande du verset 6 au verset 12, qui est en quelque sorte un rappel sur la foi et l'espérance, qui est finalement quasiment commune avec celle des prophètes. Et on a une troisième partie qui est du verset 13 au verset 24, qui est une exhortation pure et simple à la sainteté dans la foi. Donc finalement, en analysant un petit peu, on peut déjà trouver un semblant de structure juste en ayant relevé un petit peu comment était agencée cette première partie. La première partie, moi ce que j'ai identifié, c'est un évangile que j'ai reçu. La première partie du verset 1 à 5, où on voit Pierre qui se dit apôtre de Jésus-Christ. On va voir par la suite ça. Et quand il dit du coup apôtre de Jésus-Christ, on sous-entend tout de suite que Pierre connaît l'évangile. Donc l'évangile qu'il va proclamer est un évangile qu'il a reçu. Deuxième partie, un évangile qui est Christ et son œuvre avait déjà été prophétisé par les prophètes. Donc cet évangile est déjà doctrinalement, il est solide et il est unique. C'est pas quelque chose de nouveau que Pierre veut annoncer ici, c'est quelque chose qui était déjà là et qui est déjà présent et qui se révèle. Troisième partie, c'est un évangile qui se vit et qui ne laisse pas le chrétien stérile ou sans œuvre. Voilà, sans œuvre, n'ayons pas peur des mots. Nous parlons donc finalement d'un évangile qui est reçu, vécu et partagé. Donc ces trois parties sont nécessaires à voir en trame de fond quand on lit cette épître, parce que cela peut également être une chose quand on veut proclamer, partager la bonne nouvelle. Il faut que cet évangile que l'on partage soit déjà reçu, qu'il soit vécu, donc c'est-à-dire qu'on le met vraiment en pratique, et que ce soit le même que celui des apôtres et que celui également des prophètes. Ce soir, on va vraiment maintenant se focaliser sur le premier passage qui est donc dans 1 Pierre chapitre 1, versets 1 à 5. Au nom de Jésus, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Donc, ces versets, je ne vais pas faire de la paraphrase pour essayer de réexpliquer à chaque fois point par point, mais essayer de tirer vraiment une exhortation globale pour nous avec un message particulier. Le titre du message, effectivement, c'est un message à ceux qui se considèrent élus. Et donc vous allez voir qu'on va essayer de regarder un petit peu l'aspect qui se cache derrière le terme élu. Donc concernant l'auteur et les destinataires, donc on voit que l'auteur, c'est bien l'apôtre Pierre, qu'on a dit tout à l'heure, qui était un apôtre de Christ. Un apôtre est un envoyé, au sens où il a une mission qui lui a été confiée. Et Pierre, on se rappelle notamment celle que Christ lui a confiée, notamment en Jean chapitre 21, verset 17, où il le dit de paître ses brebis. Donc, garder le troupeau. Et ensuite, on voit en fait toute la place de Pierre dans l'église primitive. Donc, cela étant, il y a maintenant quatre points que j'aimerais partager concernant ce qu'on appelle les élus au premier verset. Donc, premièrement, les élus sont ceux qui sont choisi selon le projet de Dieu ou la préscience de Dieu. C'était écrit dans ma version ou dans d'autres versions, c'est selon le dessein de Dieu. En admettant cela, je dis seulement que Dieu le Père a un plan pour ceux qu'il considère comme ses élus. Le terme élu ici, il est synonyme de saint dans le sens de personne entièrement consacrée, dévouée au Seigneur Jésus. On le voit généralement dans les épîtres, ils disent à tous les saints. Ici, il dit à tous les élus. Donc on voit que ces termes sont synonymes parce que on s'adresse à ceux qui réellement prennent au sérieux l'évangile de Christ. Le terme élu nous montre que Dieu n'est pas laxiste. On se souvient notamment dans Matthieu chapitre 22 verset 14 quand Christ dit « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Les élus sont un petit peu, on peut le voir aussi dans l'Ancien Testament, comme le reste du peuple. On a ce terme « reste », à savoir seulement ceux qui ont persévéré dans la foi, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et ceux qui ont vraiment confiance finalement au sacrifice de Christ. Donc en employant le terme « élu », Pierre veut souligner qu'on s'adresse vraiment à des personnes qui ont compris ce qu'était être élu. Employer le terme « élu » implique beaucoup, beaucoup de choses. Pierre rappelle ensuite le merveilleux programme d'amour de Dieu pour ses élus, entre le verset 3 et le verset 5, qui est le fait que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus mourir à la croix pour nos péchés, prenant sur lui la condamnation qui devait nous revenir à cause de la mort et du péché entré par Adam. Puis ce même Fils, Christ, ressuscita, nous montrant ainsi que la mort était vaincue et qu'une nouvelle vie nous était désormais offerte. Une vie qui est éternelle en ce qu'elle est vécue en celui qui est éternellement bon et amour. Parce que par la résurrection de Christ, nous sommes des nouvelles créatures et le diable ne pourra plus nous corrompre car nous sommes gardés en la puissance de Dieu par la foi. C'est là que je veux souligner par la foi. On y reviendra ensuite dans le moment des exhortations. J'aimerais faire une petite parenthèse parce qu'ici, dans les versets, il nous est parlé de régénérer, notamment au verset 3. Ici, j'aimerais souligner que le terme « la régénération » montre le changement de statut de l'homme qui est d'abord sous Adam à l'homme qui est désormais sous Christ, donc la nouvelle création. Donc voilà, le premier point, c'était les élus sont ceux qui sont choisis selon le projet de Dieu. Le deuxième point, les élus sont ceux qui savent qu'ils sont appelés à l'obéissance. Donc, tu es élu, tu es appelé à l'obéissance. Les élus le savent. Les élus n'ont pas besoin qu'on leur rappelle, mais on va quand même leur rappeler. Si tu sais que l'évangile de Christ t'appelle à lui obéir, à lui rendre toute l'honneur et gloire, alors par la foi, tu es cet élu auquel l'apôtre Pierre s'adresse. Les élus sont ceux qui vivent avec des principes qui ne relèvent que de la parole de Dieu. Je ne peux pas dire que j'ai foi au Christ en tant qu'élu sans que l'évangile travaille dans mon cœur, dans ma vie et m'amène tous les jours à la repentance et au renoncement de tout ce qui fait la fierté égoïste de ma petite personne. Parce qu'en fait, l'obéissance est malheureusement ce que nous faisons le moins dans notre vie chrétienne. Nous nous devons de suivre les instructions du Christ dans l'intimité même de nos foyers. Parce qu'en fait, chanter ou louer des cantiques devant une communauté de croyants, parler de Jésus et évangéliser à des inconnus, tout cela peut être facile en réalité. À l'inverse, pardonner à un frère de sang, ne pas médire ou déshonorer mes parents, avoir un langage d'amour avec ma propre famille est tout de suite moins évident. En effet, l'obéissance se révèle finalement dans l'intimité profonde et c'est surtout les plus proches de nous, dans notre foyer, qui peuvent être en mesure, sur terre en tout cas, de constater si oui ou non nous sommes vraiment obéissants. Les gens du dehors auront qu'une seule facette de notre vie. Même si c'est vrai que c'est le Seigneur qui connaît notre cœur mieux que tout le monde sur terre, je pense que ce sont ceux qui sont dans notre foyer au plus près de nous, qui nous voient au quotidien, qui peuvent avoir un jugement un peu plus objectif de qui nous sommes. Troisième point, les élus sont ceux pour qui le sang du Christ a réellement coulé. Il est question ici d'aspersion du sang dans le verset. D'ailleurs, c'est ce qui est très remarquable quand on dit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Pourquoi préciser en fait cet aspect du sang? Parce que les élus sont ceux pour qui le sang du Christ a réellement coulé, ils le prennent en considération. En disant cela, je ne veux pas ouvrir un débat pour dire « Ah ben, Christ est uniquement mort pour ceux qui sont élus, etc. » ou quoi que ce soit. Parce que la parole de Dieu ne m'y invite pas. La parole de Dieu affirme une chose et nous devons de le prendre. Pour ceux qui croiraient que le sang du Christ a coulé pour tout le monde sans exception, alors lisons ensemble le verset de Hébreux chapitre 10, verset 29, qui dit concrètement ceci. « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce ?» À nous de méditer. Je ne commenterai pas ces versets puisqu'ils sont déjà assez significatifs concernant le sang du Christ et concernant notre considération du sang du Christ. Le sang du Christ est sérieux. Nous ne pouvons jouer avec le péché. Le péché, c'est cette transgression des commandements de Dieu ou l'inaction face aux convocations des commandements de Dieu. Le but ici est de rappeler que la vie que je peux vivre aujourd'hui a coûté la vie au Fils de Dieu. Si aujourd'hui je peux prier, demander quelque chose au Père, c'est parce que Christ est mort pour moi et qu'il a ouvert la porte de communication dans un élan de sainteté. Le sang est la marque d'alliance faite en Christ, non par moi, mais par lui, de sa propre initiative pour moi. Le sang du Christ me purifie de tout péché, car la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible. Hébreux chapitre 9, verset 22. Quatrième et dernier point, les élus de Christ sont partout dans le monde. Le passage nous montre que les élus furent dispersés, vraisemblablement à l'époque en raison des persécutions religieuses. Et oui, les élus ne sont pas seulement dans notre petite église, mais ils sont partout dans le monde. Nous pouvons prier pour tous ces élus, pour qu'ils puissent persévérer, tout comme nous, dans leur vie chrétienne. Tout cela pour dire que nous ne sommes pas appelés à dire qui est élu ou non, car Dieu seul connaît ses élus. N'utilisons pas du coup ce terme facilement comme si nous étions Dieu. Si nous pensons que nous sommes élus aujourd'hui, ce n'est déjà qu'exclusivement par la foi, et appliquons les quatre points qui sont énoncés dans le passage que nous venons de lire. Donc, avant d'en venir à l'exhortation, je nous rappelle que les élus sont ceux qui sont choisis selon le projet de Dieu. Les élus sont ceux qui savent qu'ils sont appelés à l'obéissance. Les élus sont ceux pour qui le sang du Christ a réellement coulé. Et enfin, les élus de Christ sont partout dans le monde. Pour toi qui te dis être élu, ce n'est qu'un rappel. Tu le sais déjà et c'est une invitation à davantage vivre la vie chrétienne dans l'intimité déjà, de manière sincère, pas seulement à l'extérieur pour le montrer aux autres, mais montre-le déjà dans ton foyer, que Christ est ta vie et que tu souhaites aussi le partager avec tes plus proches, c'est-à-dire déjà aussi ta famille. Si par contre aujourd'hui tu penses que tu n'es pas élu, au vu de ta manière de vivre et du faible intérêt que tu portes au Seigneur, alors viens à lui, il n'est pas trop tard pour faire tienne cette mort et cette résurrection de Christ. Dieu t'invite uniquement à croire par la foi que ce qui est rappelé ici est vrai et que tu peux être cet élu si tu saisis la promesse de la vie éternelle que l'évangile de Dieu t'offre. Repens-toi de tes péchés et le Saint-Esprit te sanctifiera pour que ta vie ressemble chaque jour de plus en plus à celle de Christ et que même si combat il y a, la victoire est déjà acquise parce que le sang précieux de Jésus a coulé pour ses élus. Amen.